Bonjour à tous et bienvenue sur la radio H2B, la radio du collège Léon Blémont. Je suis Ryan, animateur de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du numérique et des dangers d'Internet. Je recevrai tour à tour Mustapha et Laurent pour une interview sur un storyboard, Nadia et Farah pour une chronique sur les médias des réseaux sociaux, Jennifer, Michael, Ala, Jessica, Calvina et Yeshim qui nous présenteront un poème. Une fois de plus, bonjour et excellente condition d'écoute. Maintenant, je donne la parole à Mustapha et Laurent pour l'interview sur le storyboard.
Bonjour à tous, nous accueillons Mustapha.
Bonjour.
Mustapha veut nous parler du storyboard. Qu'est-ce que c'est qu'un storyboard ?
Alors, un storyboard, c'est un BD sans texte qui nous permettra de réaliser une vidéo ou un film, par exemple.
Pourquoi t'as fait une vidéo ?
Parce que notre professeur d'art plastique nous a fait d'abord un storyboard pour ensuite en faire une vidéo.
De quoi ça parlait ?
Ça parlait du football.
Pourquoi du foot ?
Parce que elle nous avait passé des émotions. Ben, moi, elle m'avait passé le stress. Et je pensais aux pénaltys qui sont assez stressants. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler ? Ben, c'est ma passion aussi.
Où l'avez-vous tourné ?
À l'ISAP.
Avez-vous de la compagnie ?
Oui.
Qui sont-ils ?
Rifat, Laurent, Hicham, Issaka, Ouloubek et Rateb.
Vous vous êtes bien amusé ?
Oui, on a fait 2-3 parties avant le tournage.
Et vous de faire de votre réalisation ?
Oui, même si on n'a pas trop réussi à montrer l'émotion.
Merci Mustapha de nous avoir parlé de votre story.
Je vous en prie.
Les réseaux sociaux sont de plus en plus au cœur de la vie des hommes. L'Internet est ainsi un média qui touche toutes les générations. Nadia et Farah nous parleront à travers leur chronique du journalisme et de ses valeurs. Je vous invite à les écouter.
Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis à l'école Haute-Blémont et je voulais vous parler de ma chronique. En cours de français avec Madame Larive, on a travaillé les devoirs des journalistes, la déontologie, les valeurs. On a comparé les unes de Valeurs Actuelles et Télérama sur les migrants. On a regardé le cadrage, le titre, le sous-titre. On a fait des critiques sur les différences. Il y en avait une qui était plutôt raciste, alors que l'autre voulait sauver les migrants. On a parlé des nouvelles technologies grâce aux tablettes, smartphones et les gens qui prennent la place des journalistes et postent sur les réseaux sociaux sans respecter la charte du journaliste. Ce n'est pas leur métier, mais ils ne suivent pas les règles. Il y en a qui font des fake news, ce sont de fausses informations. Il faut toujours être vigilant et prudent et comparer les sources pour éviter la désinformation. On a aussi appris ce qui n'était l'objectivité et la subjectivité. Il y a des journalistes qui sont subjectifs, qui donnent leur opinion personnelle alors qu'elle doit être neutre.
Bonjour, je m'appelle Farah, je suis aussi au Haute-Blémont. Je vais vous présenter mon avis sur les cours de français. Je trouve les cours longs mais instructifs. Grâce à ces cours, je ne crois plus à des histoires fausses racontées par les gens sur Internet. Je peux vérifier si un événement s'est vraiment passé ou pas. J'ai appris que les unes peuvent nous influencer. Les journalistes peuvent aussi nous donner leur avis sur des films ou des livres avant qu'ils soient sortis. Ils peuvent aussi être subjectifs. C'est pour ça qu'il faut comparer les critiques avant d'acheter quelque chose. Même après ce cours, quand je cherche des informations, je ne vérifie pas toujours les sources parce que ça prend du temps, mais je les faisais qu'avant.
La classe de 4e 3 a préparé un poème qui s'interne le bon image d'Internet. Il s'intitule « Surf Safe », ce qui veut dire « surfer en toute sécurité ». On les écoute.
Surf safe. Be nice to people online. Be respectful, be polite. Respect people, respect their post.
Sois gentil avec les personnes en ligne. Sois respectueux, sois poli. Respecte les gens, respecte ce qu'ils postent.
Respect others, so they respect you. Words can hurt, think before clicking.
Respecte les autres pour qu'ils te respectent. Les mots peuvent blesser, réfléchis avant de cliquer.
Be careful what you do, take care what you share.
Fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu partages.
Don't give personal info, don't post personal photo, don't meet in person a person you met on the net.
Ne donne pas d'infos personnelles, ne poste pas de photos personnelles, ne rencontre pas en personne une personne que tu as rencontrée sur le net.
Keep your password secret, respect the netiquette.
Garde ton mot de passe secret, respecte les codes du net.
If you see something upsetting, something you really don't like, just tell someone you trust. Now, serve safe.
Si tu vois quelque chose de gênant, quelque chose que tu n'aimes vraiment pas, parle à une personne de confiance. Maintenant, surfe en toute sécurité.
La semaine dernière, nous avons assisté à des battles sur le numérique et les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter quelques extraits de cette bataille d'idées, d'arguments et de contre-arguments.
Oui, les jeux vidéo sont dangereux si on en abuse trop. Sur certains jeux, il y a trop de pression. Chaque année, il y a des victimes. En jouant plus de 24 heures non-stop des jeux vidéo, ils meurent d'insuffisance de sommeil ou de trop grosse pression ou même de crise d'épilepsie. Il y a des jeux trop violents, absolument déconseillés aux moins de 18 ans. Par exemple, David Moore, un adolescent de 17 ans, accro à son jeu GTA 3, il en a été traumatisé. En juin 2003, il a été attrapé en volant une voiture. Les policiers l'ont attrapé, mais il s'est emparé d'une de ses armes. Il a assassiné les deux policiers, qui meurent sur le coup. Malheureusement, on n'en a plus de nouvelles de cet adolescent depuis 2003. Jusqu'à aujourd'hui, tout ça, pour un jeu vidéo, c'est grave.
C'est un peu de sa faute, parce que c'est pas la faute du développeur. Le développeur a conçu un jeu pour que les gens s'amusent dedans. Et le jeu et la vraie vie, il y a une grosse barre de différence. Si lui, il est allé tuer des gens dans la vraie vie, c'est qu'il a un problème mentalement. Alors que dans un jeu, on peut bien buter le nombre de personnes. Dans la vie, on n'aura tué personne, en tout cas. Et surtout que les jeux vidéo, ça fait quelque chose que la vie, certaines fois, ça nous apprend pas. Je vais vous donner un exemple. Dans certains jeux, comme la saga Assassin's Creed, c'est un jeu très culturel dans le monde entier. Et chaque épisode de la saga, en fait, se passe dans une époque différente. On apprend des choses que jamais on pourrait apprendre à l'école. Par exemple, dans l'épisode numéro 4, donc Black Flag, on vit l'époque à l'esclavage des Noirs. Et on est un jeune pirate qui vole les navires ennemis au XVIIIe siècle. Les navires espagnols, anglais, tout ça. Et tout au long de cet épisode, on vit le XVIIIe siècle, on apprend du XVIIIe siècle, même plus qu'à l'école, car on incarne un personnage avec qui on évolue mentalement, moralement. Normalement, on évolue comme si on était lui-même. Parce qu'au fil du temps, on apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Et encore, je vais rajouter autre chose sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo vont nous donner une performance sur nos réflexes et sur la logique. Je vais donner un exemple. Sur un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, qui est très populaire, on apprend une très très grosse logique dans le jeu vidéo. Si on veut couper un arbre, de base, il nous faut une hache. Mais pour avoir une hache, il nous faut du bois. Et pour avoir du bois, il faut trouver les matériaux qu'il nous faut. Et encore, sur un autre jeu vidéo où on peut performer nos réflexes, par exemple, je dirais, un jeu de guerre qui, certes, est choquant, mais nous apprend aussi sur l'histoire. Call of Duty World War II, où on incarne Daniel Red Fox, et ça se passe pendant la guerre mondiale. On est un capot régime d'une section de soldats. Et tout au long de l'histoire, et c'est une histoire vraie, qui est même passée jusqu'à Metz pendant la guerre mondiale, cet homme, au fil du temps, il évolue, on évolue avec lui, on évolue nos réflexes, parce que quand un ennemi est là, on sait qu'il va arriver, on se prépare à tirer, on prépare le cran, l'armement, tout ça, on est prêt à tirer.
Il y a bien des jeux éducatifs, mais d'autres très dangereux. C'est pas des personnes qui ont des maladies assez étranges qui vont être violents comme ce qu'ils voient dans les jeux vidéo. Parce que si une personne apprend, et surtout s'il est petit, il va faire tout ce qu'il voit. C'est normal. Si on apprend quelque chose, ça va être très difficile de lui apprendre quelque chose d'autre. Et si on joue à des jeux qu'il ne sait pas mais qui sont violents, ça peut être très grave pour lui. Et il peut devenir assez violent et de gâcher sa vie.
C'était chaud ces battles. J'invite à présent Vincent Bernard et Laura Taouni, respectivement médiateurs numériques et journalistes à l'association La Passerelle, à me rejoindre sur ce plateau pour un débat sur le journalisme et les réseaux sociaux.
Eh bien bonjour.
Bonjour. Alors, qui a des questions à nous poser ?
Bonjour. Ma question était, quels sont les rôles des journalistes ?
Alors, ils ont plusieurs rôles, effectivement. Le rôle des journalistes, principalement, c'est d'informer la population, les citoyens, les informer sur ce qui se passe dans le monde, dans le pays, quoi. Voilà, de leur fournir des informations fiables, donc des informations vérifiées, avec aussi, par exemple, dans certains cas, il y a des interviews, il faut donner des interviews avec des avis des deux côtés, voilà, pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Le but des journalistes, c'est pas d'influencer, c'est vraiment d'informer. Donc c'est pour ça qu'il faut donner une variété d'avis différents.
Bonjour, je m'appelle Hassan Aldojali. Alors j'ai une question à vous poser. Comment les journalistes font-ils pour mettre de côté leur subjectivité et avoir un regard objectif sur l'information ?
Alors déjà, je pense que le premier truc, c'est de travailler sur les faits. C'est-à-dire qu'on travaille sur des choses qui sont objectivables. On croise les sources, on prend plusieurs avis. On essaye aussi de se tenir à distance de son jugement et de son opinion pour être à la fois à charge et à décharge.
C'est exactement ça, mais après il y a toujours dans la façon dont on traite les faits, on essaye d'être objectif, mais il y a aussi quelque chose qui est subjectif, c'est le choix des sujets. parce que c'est, il y a tellement de choses qui se passent qu'on peut pas parler de tout. Et là, c'est vrai que on essaye d'être objectif. Et là, c'est pas forcément évident. Il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Il y a déjà l'importance de l'événement, et on sait qu'il y a certains sujets qui touchent plus les gens. Plus quelque chose est loin de nous, moins on a tendance à en parler, sauf si c'est, par exemple, quelque chose qui se passerait au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Si, à moins que ça soit vraiment un événement gravissime, on aura moins tendance à en parler que quelque chose qui se passe dans une ville qui est à 2 km. Donc il y a aussi ce type de facteurs qui sont totalement subjectifs, mais on sait que les gens, ça va plus les intéresser, forcément ce qui les concerne directement. Mais donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
Pensez-vous que certains journaux défendent des partis politiques ?
Plutôt que de tourner la question comme ça, je la transformerais en « y a-t-il une presse d'opinion ?» Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la pluralité de la presse, où différentes opinions et différentes valeurs sont représentées. Effectivement, ça nous emmène à considérer l'échiquier politique allant d'un extrême à l'autre, mais ça fait partie de la pluralité des expressions et de la démocratie. Et imaginez une société où il n'y aurait qu'une seule presse et un seul type de presse, ça rendrait un monde un peu triste, voire dictatorial.
Juste la chose à préciser, c'est vrai qu'on dit que des journalistes qui doivent être objectifs, donc la presse d'opinion, ça peut sembler un peu contradictoire, mais ce qui est important dans la presse d'opinion, c'est que ça soit clair. C'est que, en général, les presses qui sont plus de droite, de gauche, selon certains partis, c'est assez clair, donc les gens savent que ce qu'ils lisent est orienté. Le but, c'est pas de faire croire que c'est un avis objectif alors que ça l'est pas. Du moment qu'ils annoncent clairement qu'ils sont biaisés, c'est pas un problème.
Je m'appelle Arzu, je suis élève de 4e 3, et ma question c'est ça. Quel est le média le plus consulté pour s'informer ?
C'est vrai que là, la réponse que je vais donner va paraître un peu bizarre, mais apparemment, on hésite entre deux qui sont entre Facebook et Google. Donc effectivement, c'est pas des sites qui sont producteurs d'informations, qui ne sont pas des médias producteurs d'informations, mais qui sont des médias diffuseurs d'informations. Et là, on est obligé de faire cette différence-là. Sinon, sur les médias les plus consultés, comme ça, je dirais certainement Le Monde, Libération derrière.
Je sais que dans les médias, il y a aussi des médias de proximité. Ouest France, en média régional, est un des plus et le plus consommé.
Et Journal de 20h. On a toujours tendance à oublier le Journal de 20h, mais cette tranche-là de 20h est quand même la tranche dédiée à l'information entre le service public et les chaînes privées, avec des choses plus longues comme le journal de TF1 ou de France 2, ou des choses plus courtes sur M6. Oui, ça, la télévision reste encore le média pour s'informer.
Je m'appelle Radep. Ma question, c'était, est-ce que dans le futur, les nouvelles technologies pourront remplacer les journalistes ?
J'ai envie de dire non, de la même façon que les robots ne pourront pas remplacer les êtres humains de façon générale. Je ne sais pas si vous avez vu récemment qu'un robot avait rédigé un article à partir d'informations qu'il avait retrouvées sur Internet et que c'était un article au final pas si différent de ce que l'AFP peut faire comme dépêche. Mais c'est vrai qu'un robot peut-être regrouper des informations et faire un article de façon automatique, mais tout ce qui est l'approche objective, la recherche d'informations, je vois pas comment un robot pourrait le faire. Après, c'est possible, mais je préfère pas.
Moi, j'ai envie de dire que les nouvelles technologies vont pouvoir aider les journalistes à travailler plus vite, à travailler peut-être mieux ou moins bien. C'est là qu'il y a encore l'opinion qui se met entre les deux. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, avec l'informatique, c'est la possibilité d'avoir des archives plus facilement accessibles, voire sur un sujet reconstituer l'histoire. C'est facile. Il y a des moteurs de recherche où on peut voir un peu comment les différentes affaires et les différentes informations ont évolué dans le temps. Ça permet aussi de recouper plus de sources plus nombreuses et plus rapidement. Donc oui, ça les aide, mais je pense qu'il y aura toujours besoin de cette validation humaine, parce que on n'est pas prêt psychologiquement à faire confiance totalement aux machines ou faire autant confiance à une machine qu'à un être humain.
Je m'appelle Adams, je suis élève de 4e 3. Ma question, c'est, est-ce que les nouvelles technologies nous aident-elles à mieux traiter les informations ?
Du coup, si la question d'avant, c'est vrai qu'elle était orientée du côté des journalistes. Maintenant, je vais essayer de répondre du côté nous, citoyens. Alors là aussi, je pense qu'il y a deux réponses. C'est oui, elles nous permettent de mieux traiter l'information parce qu'on a accès à diverses sources, à des sources diverses, à des supports divers, du papier, de la vidéo, de la radio. On a une pluralité des avis aussi. On peut faire des recherches un peu plus exhaustives. Mais du coup, l'inconvénient et l'inverse de ça, c'est que ça prend du temps. Et se repérer par rapport à cette grosse masse d'informations, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Et c'est aussi pour ça qu'on voit une modification des pratiques journalistiques avec des titres qui sont beaucoup plus incitatifs, qui donnent envie de cliquer sur les liens et qui jouent avec les registres de l'émotion.
Quelles sont les conséquences du développement des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat?
Les conséquences, elles sont d'une part qu'on peut communiquer plus vite avec des inconnus, donc ça facilite le partage d'idées. Mais d'un autre côté, ça ouvre aussi la porte à toutes les opinions, et dont certaines sont très contestables, notamment quand il s'agit d'appels à la haine, de discrimination, d'homophobie, de xénophobie aussi, des fois d'apologie du terrorisme, etc., etc. Les réseaux sociaux, finalement, nous amènent à réfléchir sur les opposés, avec tout le bien et la révolution que ça peut engendrer, mais aussi les nouveaux problèmes qu'on découvre au fur et à mesure. Mais il ne faut pas oublier que Internet, dans notre histoire, c'est quand même très court et qu'en ce moment, là, nous sommes en train d'écrire le mode d'emploi.
Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi un peu de la consommation de l'information. Vous, comment vous consommez de l'information? Est-ce que vous écoutez la radio? Vous regardez la télé? Vous regardez les réseaux sociaux? Les sites des médias? Comment vous faites quand vous voulez avoir de l'information sur ce qui se passe dans le monde?
Alors, bonjour, je m'appelle Ala. En fait, je pourrais dire que moi, je m'informe des fois sur les infos qui passent à la télé et des fois sur Facebook. Mais je fais pas confiance à mon côté. Des fois, je demande est-ce que c'est vrai ou pas. Je regarde les commentaires sur Facebook pour voir si c'est vrai ou pas. Et sur les infos, je demande à mon père est-ce qu'à son avis c'est vrai ou pas. Des fois je demande à mes professeurs pour m'informer aussi.
Moi je regarde 1945.
Moi par exemple je m'informe avec le journal parce que mon père il le lit et...
Il lit quoi comme journal du coup?
Le Républicain Lorrain.
D'accord, donc les informations plutôt locales.
Je regarde plutôt le journal de la TF1 parce que il informe mieux.
Il informe mieux que quoi?
Que les réseaux sociaux. J'ai pas dit que aussi le journal des 20h c'est juste, mais peut-être c'est mieux vérifié.
Personnellement moi je regarde souvent les informations à la télévision et de temps en temps je regarde sur les réseaux sociaux.
Et sur les réseaux sociaux, est-ce que tu suis des comptes de journaux ou est-ce que c'est tes amis qui mettent l'information? D'où est-ce qu'elle vient l'information?
Je regarde des chaînes journalières, mais je suis pas à fond sur les réseaux sociaux, je suis plus sur la télévision.
Okay.
C'est la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de partager avec vous ce moment. Je remercie Jennifer, Mickaël, Ala, Jessica, Kelvinda, Yeshi, Mustapha, Laurent, Nadja et Farah pour la participation à cette émission. Je n'oublie pas nos professeurs, Madame Georges, Madame Larive, Madame Médoc, pour avoir accompagné les élèves dans leur travail et sans oublier l'équipe de Morning Buzz. Merci et au revoir.
HDB.